Le lundi 6 novembre. C'était un jour comme les autres.
J'ai très vite compris qu'il se passait quelque chose.
Ça n'a pas été immédiat. Puis ça m'a pris d'un coup.
La limonade a été empoisonnée.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti cinéma.
Graffiti cinéma.
Bonsoir et bienvenue en Graffiti. Quand on a décidé au mois d'avril d'un thème justement qui nous plairait, on est parti pour conclure ce mois d'avril. On avait envie, nous, de vraiment mettre en avant dans notre émission enregistrée en ligne le samedi 22 avril. On voulait directement rebondir sur une forme de porte ouverte à un thème qu'on voulait traiter sur plusieurs émissions. On va le faire aujourd'hui en introduction pour les présenter. Ces mockumentaires, les documentaires qui mentent et qui parfois racontent un petit peu des bêtises. Mais c'est un genre qui est créé qui est apparu il y a très longtemps, on peut même remonter très très loin dans l'histoire. Évidemment, on va faire un panel de tout ce qui a pu nous marquer dans les documentaires et tenter une définition du genre aujourd'hui. On va commencer déjà par accueillir par les amis qui sont autour de la table virtuelle. Bonjour Juliette, et merci d'être avec nous.
Coucou et merci d'être avec moi.
De rien. Et bonjour Thomas, et merci d'être avec nous aussi.
Mais je vous remercie également d'être avec moi, c'est un vrai honneur pour vous d'être là, quoi.
Bienvenue dans le podcast narcissique, des cinéphiles narcissiques. Alors tout de suite, on va évidemment commencer à rentrer dans notre thème, les mockumentaires. Peut-être avec le premier mockumentaire de l'histoire du cinéma. Assez bizarrement, il se passe à la radio. On se retrouve dans quelques secondes justement pour évoquer 1938 et cette panique peut-être autour de la guerre des mondes et d'Orson Welles.
This is Columbia Station for the nation's capital.
Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Le 30 octobre 1938, Orson Welles et sa troupe de théâtre du Mercury diffusent à la radio une adaptation du roman de science-fiction La Guerre des Mondes. Cette histoire d'une invasion martienne transposée dans le New Jersey aux États-Unis, présentée sous forme de flash et de reportage, passe pour un vrai direct. Le récit haché du faux envoyé spécial, faisant part de combats épiques entre martiens et l'armée américaine sur fond de bruit d'explosion, effraie les auditeurs qui inondent les standards téléphoniques d'appels.
Alors c'est un son qui raconte La Guerre des Mondes d'Orson Welles en 1938, ce gigantesque canular. Alors, on l'a souvent présenté comme un canular dans l'histoire, voire comme une source de panique. Que se passe-t-il exactement? C'est une adaptation tout simplement radiophonique, comme on faisait à l'époque, dans les années 30, du roman d'H.G. Wells, donc La Guerre des Mondes, qui raconte une invasion où l'humanité se fait casser la tête, clairement, par des martiens qui, sans envoyer une petite déclaration de guerre comme on a l'habitude de faire, décident d'envahir leur planète et à peu près de tout raser sur leur passage. Alors, il y a énormément de légendes autour de ce récit. Là, pourquoi on va le mettre comme source du documentaire alors qu'on parle de cinéma? Parce que déjà, il y a Orson Welles, évidemment, qui va devenir une première star en tant que cinéaste, de réalisateur de l'histoire du cinéma, alors qu'avant c'était beaucoup plus les comédiens qui venaient du théâtre. Lui-même vient du théâtre, et au départ il avait un rapport au cinéma qui était un petit peu hautain, parce que avant de faire Citizen Kane et Dissidencer à fond, comme tout homme de théâtre, on voyait le cinéma comme un art mineur encore dans les années 30. La radio également, elle a un complexe d'infériorité par rapport aux journaux en tant que média d'information dans les années 30, et moi longtemps je me fais aujourd'hui pendant cet enregistrement amende honorable. Longtemps j'ai diffusé que, en racontant cette histoire, il y a eu des vents de panique, il y a eu des crises cardiaques, et qu'Orson Welles avait dû s'excuser parce que des gens étaient paniqués d'entendre ce faux documentaire, ce mockumentaire qui racontait l'invasion des États-Unis de la côte est par des martiens. Alors évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont appelé, comme on a entendu ici. Alors c'est un son que j'ai extrait de la chaîne YouTube qui s'appelle Aleph 99, ALPH 99, que vous retrouvez, avec beaucoup de documents historiques. Alors on peut le dire, Juliette, tu nous as donné l'idée vraiment de commencer l'émission avec ce document-là. C'était pas vraiment clairement un mouvement de panique. C'était une fiction très bien réalisée qui a réussi à tromper les auditeurs. On est loin du mouvement de panique qu'on a imaginé.
En fait, c'était dans le cadre d'une émission de théâtre radiophonique, finalement. Donc, il racontait une histoire, et en mettant le ton, effectivement. Et en fait, ça a été monté en épingle par les quotidiens, les journaux imprimés. Parce que que il y a eu quand même de rares scènes, hein, mais vraiment très très peu de scènes de panique. Et ça a été tout ça, ça a été monté en épingle pour critiquer en fait l'inconséquence de ce nouveau média, de la radio, et que bah, attention, vous avez vu, c'est dangereux parce que ça crée des crises de panique et c'est, ça peut être dangereux pour la société. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant là-dedans.
Alors il y a eu énormément de choses, hein, notamment la page Wikipédia qui consacre à l'événement qui en dit long. Vous avez retrouvé même un descriptif de toutes les pistes audio de cette fiction qui en 1938 donc défraie la chronique et nous permet vraiment de présenter cette source du mockumentaire, puisque le mockumentaire c'est au départ quelque chose qui est fait pour divertir. Évidemment, le genre, on peut déjà lui donner des sources ici dans les années 30. Je crois qu'à l'époque c'est aussi une période où on prend au sérieux justement les mockumentaires, mais on va pas forcément en faire des éléments de polémique en dehors du dérangement qu'il a pu provoquer ici à l'époque avec les petits moments de panique. Ça n'a pas blindé, plombé la carrière d'Orson Welles comme souvent on entend quand on tisse la légende, qu'Orson Welles aurait failli ne plus faire de théâtre ou ne plus faire de radio, qu'il aurait été licencié à la suite de ça. Non, il fait du cinéma parce qu'il signe un contrat avec la RKO, ce qui était la suite logique pour lui.
Et puis surtout, il surfe un petit peu sur le truc, quoi.
Exactement.
Tout malin, quoi. Il va pas démentir en disant non, c'est pas ce que j'ai voulu faire, ou il y a pas de... non, il suffit de laisser parler. Et il a très bien compris comment ça marchait. Il suffit de laisser parler. Les journaux papier, ils veulent vendre un petit peu de papier. Bon, bah, lui, il continue à laisser dire. Et puis derrière, il signe un contrat en se disant mais peut-être que ça l'a aidé à signer le contrat. On n'en sait rien. Peut-être pas. Mais au final, il se retrouve à faire ce qui est considéré comme le plus grand film de tous les temps. Alors. Est-ce que tout ça, ça a aidé? Mais c'est plutôt rigolo, surtout qu'au début, tout le monde le sait que c'est une fiction. C'est sûrement même dit au tout départ, quand il lance l'émission. Les gens qui écoutaient l'émission de départ savaient bien qu'ils avaient affaire à une
exactement, oui. Voilà.
À une fiction.
Tout à fait.
Et ça l'a souvent aidé dans un sens aussi que l'émission, elle avait un public très très peu nombreux. Enfin, c'était vraiment une audience, enfin des auditeurs très épars. Donc finalement, ils lui ont fait de la pub, quoi.
Alors c'est vrai que là, pour le coup, on découvre tout simplement.
Est-ce qu'on peut pas se dire que Orson Welles c'est une sorte de Cyril Hanouna?
Oh, j'espère pas.
C'est flatteur pour Orson Welles quand même.
Non, mais ouais, mais là maintenant on dit ça, mais ça se trouve, Cyril Hanouna, dans 4-5 ans, il va réaliser le plus grand film de tous les temps.
Il est déjà fait.
On n'a jamais vu. Et dans 50 ans, on sera là en disant oh là là, regardez, c'est. Ces intellos de bobos de gauche qui critiquent le grand Cyril Hanouna qui avait une vraie vision.
Je pense qu'il l'a déjà.
Ça arrivera, ça. Méfiez-vous.
Quand il a produit les Segpa, il a fait son grand film, je pense.
Ah oui.
Je pense que là, on était bien. Alors, on pourrait digresser sur Cyril Hanouna et vous proposer un thème accessoire. Mais c'est vrai que les documentaires en disent long, en tout cas, sur la capacité de quelqu'un à se mettre en scène par rapport à un sujet, évidemment, et directement proposer quelque chose de différent. Alors, il y a le registre comique. Là, on était dans un registre sérieux puisque c'est du théâtre. Moi, je vous propose, justement pour finir cette première séquence, un registre plutôt comique qui est très intéressant, qui est l'angle de Kunk on Earth qu'on avait déjà abordé il y a deux émissions avec Rebecca. Je vous propose un très court extrait, on se retrouve juste après. Long enough to explain the pyramids. It's obviously just big bricks in a triangle. I'll be asking questions. What was the Soviet Union? And go to every corner of a globe without corners. Do we know if China has a roof? So join me, Philomena Kunk. This is Kunk on Earth. Alors, Kunk on Earth est vraiment divertissant, c'est avec Diane Morgan, hein, on l'avait abordé avec Rebecca, justement, qui on arrive sur Netflix, c'est une mini-série de 6 épisodes. Là, on a cet angle vraiment comique qui revient, puisqu'on n'est plus évidemment en 1938, c'était arrivé sur Netflix en janvier, c'est un programme de la BBC directement, et on est dans l'humour absolu. Alors, vous l'avez entendu, si vous êtes anglophone, on a une fausse historienne, alors elle ne se définit pas du tout comme historienne, mais elle prétend avoir la science infuse, hein, on pourrait la présenter comme une forme de Trump au féminin, et elle va rencontrer des vrais spécialistes, hein, qui existent dans la vraie vie, qui n'ont pas des acteurs, en leur posant des questions absolument dingues, en disant bon, les pyramides c'est sympa, mais c'est pas non plus ouf, hein, c'est quand même des briques dans un triangle. Et vous l'avez entendu dans l'extrait, elle demande même quelqu'un à une sinologue, hein, une experte de la Chine, est-ce que la Chine a eu un toit? Voilà, donc plein de questions plus foutraques les unes que les autres comme celle-ci, dans une totalement humoristique, c'est vraiment à mourir de rire, c'est pas de la gaudriole, mais on peut vraiment avoir des grandes barres de rire en voyant ce documentaire-là. Choke, 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 choke. Première partie, nous avons tenté justement une introduction du documentaire avec le premier de l'histoire, 1938, Orson Welles. Là, à l'instant, vous venez d'entendre The Who ou Zoo, Shuk Shuk, du rock qui vient de Mongolie. Alors, ça nous permet de faire un coucou à Stéphane qui nous a proposé cette bande-son. Directement, on nous en découvrir ce groupe de rock. Et j'en profite, hein, juste avant qu'on reprenne le fil de l'émission, pour vous préciser que vous pouvez nous proposer des bandes-sons, des idées de thèmes, hein, sur la page Facebook de l'émission ou sur notre page Instagram. Évidemment, on écoute tout, on lit tous les commentaires et on se fera un plaisir de relayer vos questions, vos demandes et vos propositions. Alors, on parle de mockumentaire cette semaine, les amis. C'est la dernière émission du mois d'avril, puisqu'on parle de documentaire et de mockumentaire. Et cette semaine, justement, alors vous entendez, on enregistre à la maison, en fonction du niveau et du talent de mon montage, vous entendrez peut-être ma fille à hurler en arrière-plan. Mais c'est un documentaire. On fait une émission d'enregistre en format documentaire. C'est comme
ça. C'est la vraie vie.
On s'adapte. La vraie vie des vrais gens. Voilà, exactement. Opération Lune de William Carell. On est en 2002. Je vous propose une courte bande-annonce.
Dieu créa le monde en 6 jours. Et le 7e, Stanley Kubrick lui renvoya le tout pour modification, écrivit un critique. Un an après la mort du réalisateur qui avait demandé à être enterré dans le jardin de sa propriété à une cinquantaine de kilomètres de Londres, sa femme, Christiane, et Yann Arlan, son directeur de production et par ailleurs frère de Christiane, parlaient du tournage du film Barry Lyndon.
There is no camera built for this. So he was looking desperately.
Pour quelles raisons les responsables de la NASA et Werner von Braun, le père de la conquête spatiale, avaient accepté de prêter à Stanley Kubrick pour le tournage d'un film leur fameuse caméra, celle qui possède cet objectif mythique dont il n'existe qu'un seul exemplaire au monde. Cette lentille unique d'une valeur de plusieurs millions de dollars, la seule à pouvoir filmer les satellites espions dans le noir absolu, était jalousement gardée au secret depuis sa mise au point.
Alors, on connaît la légende directement qui est présentée dans Opération Lune, le fait que on reprend le scénario d'un film, lui tout aussi génial, qui était également diffusé à regard d'ailleurs à ce festival sur Dreux, qui est directement le fait que l'alunissage de Neil Armstrong et des autres a été tourné en studio et qu'on a absolument monter un canular dingue et complètement fou pour présenter cette opération-là qui ne pouvait pas être réalisée en 69. On refuse le fait qu'en 69, on ait pu envoyer des hommes sur la Lune et les ramener. Alors, dans ce court extrait, on demande à Stanley Kubrick de le faire parce que c'est un perfectionniste et on connaît, comme on l'a entendu dans l'extrait, la légende hein, de Stanley Kubrick. Dieu a fait le monde en 6 jours et Stanley Kubrick lui aura demandé de faire une autre prise. Donc, on demande à Stanley Kubrick qui est en train de produire Barry Lyndon et on sait aussi que Barry Lyndon, alors selon la légende, aurait été tourné avec des lumières naturelles et des bougies. Évidemment, il fait une caméra spéciale pour Barry Lyndon, une photo et une pellicule tout autant adaptée, et cette caméra serait celle de la NASA, que la NASA avait mise au point pour organiser le canular et filmer, organiser en tout cas le filmage de l'alunissage en studio. Donc Stanley Kubrick est dans la combine, il glisse des extraits dans toute sa filmographie, y compris jusqu'à Shining, où vous avez un documentaire complètement dingue, Room 537, qui précise tous ces indices que Stanley Kubrick aurait mis pour dire qu'il avait filmé l'alunissage mais qu'il était tenu au secret défense et qu'il ne pouvait pas le faire. Donc ça donne une théorie du complot totalement folle, sauf qu'Opération Lune de William Carell est un canular absolu et il le raconte dans sa scène de fin. Alors il peut utiliser des témoignages de Donald Rumsfeld qui était quand même secrétaire à la défense des États-Unis à l'époque. C'était complètement dingue, c'était passé sur Arte, ça dure 50 minutes, vous le retrouvez en ligne sur YouTube. Et moi franchement c'est un des documentaires qui m'a le plus marqué parce qu'il reprenait un scénario donc, de Capricorn One de Peter Iams qui lui imaginait exactement le même type de script, sauf qu'on parlait cette fois-ci d'un atterrissage sur Mars
et on... un amarcissage
tout à fait.
Un amarçage.
Ouais, faut pas
on, avait, on avait tablé sur amarçage.
Ouais, faut... C'est vrai, amarçage, on avait dit.
Je pense qu'il faut pas le faire. Rien que pour ça, faut pas le faire, puisque le mot n'existe pas en français. On ira plutôt sur Saturne pour faire un saturnissage, qui me paraît beaucoup plus cohérent. même si c'est une planète gazeuse, on s'en fout, vous débrouillez. Donc, ceci dit, voilà, c'est, cette légende est née, et Opération Lune, en 2002, hein, donc on le voit, on n'était pas encore dans les théories du complot qu'on croyait, on pouvait encore rigoler de ça, on pouvait encore faire des fake news qui font rire.
Est-ce qu'on en arrive à rire? Je peux pas. Au départ, pas forcément, parce que on veut trouver ça intéressant. On veut se dire ouais, je vais découvrir quelque chose. Ça y est, j'ai enfin quelque chose qui m'est caché, qui m'est dit. L'enquête journalistique est là. Le mec a fait son boulot. En plus, William Carell, c'est pas le dernier des. C'est pas le dernier des cons, ça veut dire que ce gars-là, il sait ce qu'il fait, quoi. Et au final, il en arrive à la fin, et on se dit, mais oui, mais... Enfin, attends, il m'a blousé, en fait. Il m'a blousé. C'est pas vrai. Et comment j'ai été crédule, quoi? Comment c'est possible que je sois crédule? Alors, évidemment, après, à la deuxième lecture, on peut s'en amuser. C'est là où on s'en amuse totalement, quoi. Où on se dit, oh là là, il est très très fort, là. Il arrive à recadrer les propos, à les faire tenir, parce que c'est des vrais propos qui ont été tenus. Rumsfeld, il parle vraiment de ça, sauf qu'il suffit de le monter différemment et de mettre avant et après pour encadrer les propos, et on se dit, ah bah oui, il parle totalement de ce sujet-là, mais non. Et c'est vrai que c'est drôle maintenant, mais on peut se dire que est-ce que ce sera pas éventé? Voilà. C'est-à-dire que là, à l'époque où l'Internet est vraiment assez balbutiement, YouTube n'existe pas encore.
En 2002, c'est un peu jeune. En tout cas, il y a de la densité.
Voilà. Et donc, c'est ça, en fait, qui fait tout le sel du truc. C'est de se dire que ça sera éventé. Là, c'est sûr. Ça sera fatalement éventé. Le moindre Twitter, le mec qui aura participé à la production de ce truc, va l'éventer. Donc, c'est...
Parce qu'avec tous les sites de complotistes et tout, ça peut, voilà, ça dépendra qui le regarde finalement. qui l'interprète.
Oui, alors moi je me rappelle à l'époque, je travaillais, j'étais dans l'enseignement, un gamin m'avait ressorti toutes les théories d'Opération Lune. Alors ce qu'on retrouve pêle-mêle dans Opération Lune, c'est typiquement un exemple typique de la déformation qui avait déjà eu lieu à l'époque avec la guerre des mondes qu'on évoquait, c'est de l'exagération. En gros, pourquoi le drapeau américain flotte alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune? Bon, la réponse est simple, c'est qu'il y a un fil de fer derrière, un cadre qui le maintient tout simplement. Pourquoi la Terre change de taille dans les différentes photos que les extraterrestres, que les astronautes prennent sur la Lune? Tout simplement parce qu'on change d'objectif. Donc si on change d'objectif, on change de lentille, donc on change forcément la profondeur de champ. Toutes ces réponses, en fait, toutes ces questions posées de manière béotienne et qui peuvent amener un complot avaient des réponses scientifiques. Et moi, à l'époque, je me dis, mais c'est pas possible. Ça m'avait mis en doute et j'avais dû vérifier mes sources. Je pense que là, du coup, ça m'amène une première grande question, enfin une deuxième grande question que je vous pose. Est-ce que finalement le documentaire, a cet élément complètement vraiment important, justement, qui est digne du 1er avril, c'est que le 1er avril, tout le monde vérifie ses sources pour pas passer pour un idiot ou une idiote. Le documentaire, il organise le 1er avril toute l'année. Est-ce que c'est pas le premier rôle du mockumentaire?
Oui, pour moi c'est tout à fait ça. C'est que en fait le mockumentaire, il appelle tout le monde à se méfier des documentaires qui sont dits sérieux, parce que finalement les mockumentaires sont faits sérieusement généralement, même s'ils racontent une grosse blague, ils sont faits sérieusement. Et bah, enfin, on va le voir avec d'autres sujets d'autres mockumentaires qu'on va traiter plus tard, mais le documentaire, il faut jamais oublier qu'il y a le point de vue de la personne qui nous le présente. Donc si il choisit de couper un morceau d'un discours ou quoi, il va nous montrer que ce qui l'intéresse et il peut en tirer tout ce qu'il veut. C'est comme les études scientifiques, au final, on peut faire dire tout ce qu'on veut à des chiffres et s'il suffit de les interpréter d'une certaine façon. Donc c'est ça qui est intéressant dans le documentaire, c'est la critique du documentaire.
Bah, je peux vous donner un exemple de chiffre qu'on peut tourner à peu près n'importe comment, une statistique assez effarante et qui est tout à fait juste. Je suis personnellement, moi en tant que tennisman, invaincu contre Rafael Nadal à Roland-Garros.
C'est vrai. Ce qui est vrai.
Voilà. Et non, mais c'est important.
C'est vrai, il y a aussi un autre chiffre qu'on peut tourner n'importe comment. Par exemple, c'est 8. Si tu le tournes dans l'autre sens, ça fait toujours.
C'est tout à fait juste. Voilà. Non, mais la France a le droit de le savoir. Donc, cette théorie du complot qui nous amènera forcément vers un thème parano et cinéma qu'on vous prépare depuis plusieurs années, qu'on va évidemment mettre en place peut-être dès la saison prochaine, en tout cas nous amène vers quelque chose d'important. C'est est-ce que le canular à l'image d'Orson Welles en 38 doit rester inoffensif pour fonctionner?
Il n'est pas inoffensif. Hein. Il n'est pas inoffensif, Opération Lune. Mm. Parce que toi-même, tu le dis, quand il y a des gamins qui sont venus te voir en disant « j'ai vu ça, ça et ça », toi, tu étais obligé de te dire « attends, il faut que je me gratte la tête, là, c'est pas possible ». Voilà, est-ce que vraiment, il peut y avoir quelque chose de vrai là-dedans? Et quand il y a toujours des théories qui continuent à tourner en se disant « mais non, voilà, il suffit de montrer un petit propos du film pour dire « regardez, vous voyez, il le dit, lui, et puis, attends, c'est sérieux ». Sauf que, effectivement, quand on voit à la fin que tout est un mensonge et qu'il le dit de façon assez nette, voilà, c'est... Alors que d'autres, maintenant, ne font pas masquent ce dernier plan où il dit « bah non, regardez, je vous ai blousé ». Maintenant, il suffit de le masquer et c'est réglé.
Alors Juliette, là-dessus, c'est vrai, est-ce que ça doit rester inoffensif? Est-ce que ça doit forcément un peu venir troubler ceux qui ont des certitudes pour qu'ils arrivent à les vérifier et revérifier leurs sources? Parce que c'est vrai qu'on donne tous l'exemple. Opération Lune est un cas emblématique. Tout le monde, c'était acquis. Pensée était sûre, et toujours sûre la plupart, qu'on a bien un aluni sur la Lune et qu'il n'y a aucun problème avec ça, et que le rover, comme on l'avait dit avec nos amis du club de science, il est toujours sur la Lune. Il n'y a pas de débat là-dessus. De débat scientifique, c'est évidemment une acceptation globale. Mais ce mockumentaire vous a obligé à faire à vérifier en gros ce qu'on cite dans ce magnifique film qui est JFK sur la paranoïa. Si ton papa est ton papa, c'est parce que ta maman te l'a dit. Donc il faut quand même que tu vérifies tes certitudes et que tu ailles vérifier tes sources. Et c'est vrai que quand on voit Opération Lune, on dit ok, je sais qu'ils ont à l'Uni, mais je dois être capable de prouver et de vérifier mes sources quand même. S'il y a ce côté un peu, je dirais, pédagogique dans un sens qui a bien fonctionné quand ce film est sorti. Après, évidemment, on les voyait sous un autre angle.
bah, en fait, c'est ce que tu dis, c'est vérifier ses sources. Donc c'est pour ça, je pense que c'est important pour nous titiller, mais il faut le faire pour tout, pour un documentaire, effectivement, parce que pourquoi voilà, ils sont allés chercher un tel sujet et tout ça, c'est parce qu'il y avait une réelle crainte, ou enfin, crainte, c'est peut-être un mot fort, mais oui, c'est tout à fait ça, vérifier ses sources, et c'est ça que le documentaire nous demande de faire. Hein. Ne prenez pas un documentaire pour argent comptant, il faut vérifier, et puis il ne faut pas vérifier à un seul endroit, il faut vérifier dans plusieurs endroits et se faire sa propre opinion. Il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate.
Exactement.
Mais c'est vrai.
Les platistes, on parle que la Terre est plate, bien sûr. Bah, attendez, on va au bout de la Terre, on tombe, les gars.
Non, il y a aussi le contexte. Hein. Il y a aussi le contexte dans lequel il sort. Il sort en 2002, mais voilà, on fait pas un dessin. Hein. Le 11 septembre 2001, toutes les autres théories qui sortent après, voilà, on se trouve s'il y a un énorme télescopage incroyable où on se dit que voilà, c'était possible. Et c'est aussi la fin de X-Files.
Oui.
C'était à cette période-là. La dernière saison est diffusée en 99-2000. Donc, il y a comme si ça reprenait une sorte de flambeau, se dire qu'il y a une théorie du complot qui existe. Ouais.
Bon, après, X-Files est allé loin dans l'outrance. Je pense qu'on n'est pas dans la zone de gris un peu à la Maupassant.
Bien sûr.
On peut hésiter. Est-ce que ça existe ou pas, les extraterrestres ? Enfin, pour avoir revu récemment les X-Files, c'est vrai qu'on imagine qu'à l'époque, tous les gens étaient embarqués. Évidemment, il y a une théorie du complot. Ce qui est très bien dans X-Files, d'ailleurs, c'est de récupérer les théories du complot des années 70 pour les réactualiser. Dans les années 90, je pense qu'il y a assez peu de débat quand on voit des extraterrestres débarquer, cloner à peu près tout le monde et tuer à l'acide des témoins clés d'une affaire. On peut se dire que même quelqu'un qui croise des extraterrestres, il veut dire du non, c'est un petit peu fort de café là. Voilà, bon, c'est.
Mais il n'y a pas que la partie extraterrestre hein, dans les X-Files et dans les Fringe et tout ça. Donc, ça, c'est le truc général, mais chaque épisode, il y a des petits trucs. Et il y a des épisodes où, des fois, tu peux te poser des questions, quoi.
C'est vrai que Fringe, d'ailleurs, on peut citer parce que c'est une série préférée de Nicolas, qui l'a toujours vu comme le successeur d'X-Files, alors que c'est juste une série certes intéressante, mais déjà avec un nom nul. Je comprends pas Fringe, ça n'a aucun sens. Je pense toujours à Fringe, moi, c'est nul. Non, faut changer.
Ah oui, c'est une série avec des frigos.
Exactement. La première fois qu'il m'en a parlé, je me dis c'est quoi une série avec le créateur des frigos ? Je suis pas sûr que c'est un potentiel de dingue. Enfin voilà. Et non, mais c'est. Non, très bien. Alors blague à part, c'est vrai que vous la retrouvez aujourd'hui, il me semble, sur Amazon Prime de mémoire.
Amazon Prime.
Voilà, Fringe. Alors c'est une série inaboutie, inachevée malheureusement. Elle a pas pu aller au bout de ses arcs narratifs. Mais en tout cas, effectivement, reprenez le flambeau de ces séries à la lisière de la science-fiction. On imagine, en tout cas, qu'on a des personnes qui envahissent la Terre avec le mythe des anciens. Ces grands anciens qui auraient terraformé la planète pour que l'humanité puisse y apparaître. Alors on va continuer à parler d'énormément de thèmes parce que c'est vrai que dans, je dirais, l'univers audiovisuel international depuis plus de 50 ans, évidemment le documentaire a toujours existé. Nous aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est vous en présenter quelques-uns pour voir les différents angles d'attaque sur ces éléments-là. Il y en a un dernier qui évidemment nous rappelle, comme le disait Thomas, une actualité un peu plus sinistre, c'est tous ceux qui sont nés à la suite évidemment de la catastrophe qui est celle du 11 septembre. Je vous propose un très court extrait où on va entendre les reportages télé d'époque de la télé française, notamment avec la voix de Daniel Bilalian. C'est le film de la catastrophe. Ce sont les archives de l'INA que vous retrouvez sur leur chaîne YouTube. On va écouter quelques secondes pour évidemment se remémorer cette journée assez sinistre et évoquer un documentaire qui, lui, pour le coup, sera dans une zone de gris qu'on va définir en quelques minutes juste après.
Ce qui s'est passé hier, que ce soit à New York ou à Washington, les premières images qui nous parvenaient hier après-midi étaient impensables. Tout le monde pensait regarder un film de fiction, mauvais film. Malheureusement, c'était bel et bien la réalité des événements. Nous allons maintenant revenir sur la catastrophe elle-même, les différents attentats qui sont survenus donc hier en début d'après-midi au-dessus de New York, au-dessus de Washington.
Donc on l'entend dans ce reportage et dans cet extrait du journal donc de Daniel Bilalian, c'est même assez éloquent, il a cette phrase dingue qui a marqué, c'est que c'était impensable. Donc comme c'était impensable et qu'on pensait à des images de films de fiction, d'ailleurs on l'a tous été hein, quand on a vu ces images-là, on a appelé des amis, on s'est dit mais est-ce que ce que je vois est vrai ? Parce que on avait déjà vu des catastrophes qui avaient déjà été filmées, mais c'est la première fois où la catastrophe est filmée en réalité télé, en temps réel, et c'est une des premières fois dans l'histoire où elle est mondialisée également. Tous les éléments, toutes les planètes étaient alignées pour en faire un des événements les plus traumatisants dans évidemment le monde entier. Alors, traumatisant au sens catastrophique. On sait que ça a été récupéré, qu'il y a des idéologies derrière, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Ces images là elles ont évidemment infusé, elles ont inspiré tous les cinémas de toutes les cultures internationales. Évidemment, la nouvelle vague de found footage dans la foulée et de films catastrophes qui sont revenus, évidemment nés de ce traumatisme, trauma collectif du 11 septembre. La phrase quand même de Danny Bidalion, moi je la relève, c'est que c'était un mauvais film. On n'y croyait pas, on n'avait pas envie d'y croire. Et c'est un peu le début finalement du documentaire, c'est qu'on a envie d'y croire, mais on peut pas y croire. Il y a une suspension vraiment de la crédibilité qui est propre à tout scénariste justement dans ces films. C'est que même dans un film comme Star Wars, on a ce qu'on appelle la suspension de la crédibilité, où on accepte le temps d'un film que, ok, des lasers dans l'espace, ça peut exister si l'univers est cohérent. Là, on avait des cerveaux qui refusaient d'y croire, absolument.
Parce que c'est trop, c'était tellement choquant de voir ça. Enfin, moi j'ai souvenir, j'étais dans ma petite chambre d'étudiant et j'ai regardé ces tours tomber je ne sais combien de fois parce que j'y croyais pas, quoi. Enfin.
C'est ça, il y a une forme de répétition. En plus, il y avait une forme de répétition complètement dingue. À chaque fois, les tours tombaient. Ce qu'on revoyait, c'est ça. Le fait que ça tombe, le fait que ça tombe, le fait que ça tombe. Tout le temps. Et ce genre de choses, on pouvait tellement pas y croire que tu te dis, mais... Et si il y avait autre chose?
Exactement.
Il y a tellement d'images qu'il y a certaines images, finalement, qui manquent.
C'est ça.
Voilà, on se dit, il y a tellement d'images, on en a tellement vu, on se dit, mais forcément, on doit avoir une image de l'avion qui plante la tour, on doit avoir une image de l'avion qui plante le Pentagone, on doit tout avoir de tout ça. Sauf que, il n'y en a pas. On ne va pas les inventer, il n'y a pas de complot pour ne pas qu'il y en ait. Mais c'est tellement facile de se dire que, effectivement, il y a un complot pour ne pas qu'il y en ait. Et dès qu'on met le doigt là, bah après c'est réglé. Hein,
cette question que toutes les personnes de tous horizons, quelles que soient leurs intentions, bonnes, mauvaises, narcissiques, tout ce que vous voulez, elle passe dans tous les esprits, parce que c'est vrai que ça va loin. Et évidemment, en France, on peut citer donc cette émission dont Thierry Ardisson à l'époque, qui reçoit Thierry Messant, qui n'a pas mis un orteil aux États-Unis et qui prétend donc que l'avion sur le Pentagone, donc un des avions qui s'est écrasé pendant cette journée sinistre, n'a pas existé. En fait, que c'était pas possible qu'il y ait un avion qui ait existé sur le Pentagone. Alors, il prend en exergue, on va tout de suite le dire, il n'y a pas de débat, il y a un avion qui a été écrasé sur le Pentagone. Les derniers documentaires qui avaient été diffusés avaient même montré les corps, avaient dû le faire, parce qu'il y avait encore des personnes aux États-Unis qui habitaient juste à côté qui prétendaient qu'il n'y avait pas d'avion sur le Pentagone. Si, il y a eu un avion sur le Pentagone. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est assez abracadabrandesque, même s'il me manque des lettres à
mon nom. C'est toujours facile, hein.
Mais
c'est que Chirac qui peut le sortir.
Exactement. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'image. Voilà, il y avait juste une image de vidéosurveillance qui montrait une ombre passer, parce qu'on n'était pas prêt à ça, et c'était arrivé. Donc lui, il prétend dans son bouquin que l'avion sur le Pentagone n'a pas existé, que ça ne peut pas exister. Aux États-Unis, c'est repris. Et c'est justement ce biais-là qui est à l'origine d'un documentaire. Alors, avec des énormes pincettes, c'est pour ça qu'on peut le mettre dans une zone de gris, parce que c'est un mockumentaire, on va citer son titre, c'est Loose Change, sont des complotistes, des personnes clairement qui là, avec un fond clairement fascisant et antisémite, il faut pas avoir peur des mots, ont mis en scène un récit directement disant que tiens, il y a quand même des petites zones bizarres, et l'ont construit dans un site, dans un but idéologique vraiment clairement antisémite. Alors je vous donne un exemple de ce fond assez nauséabond de Loose Change. On le cite parce que vous le retrouvez malheureusement en ligne, il y a des tonnes de versions qui se sont succédées. Là, un des arguments qui dévoilait entièrement vraiment le fond de ce documentaire-là, c'est de dire que dans les tours, bah, finalement il n'y avait pas tant de juifs que ça qui étaient morts, que la plupart étaient descendus des tours, ils avaient été prévenus, alors je mets évidemment ça avec des énormes pincettes, et la théorie c'est que l'écrasement des tours, ça ressemblait à une destruction programmée, comme quand on fait, quand on démonte et qu'on détruit des HLM ou des grandes barres d'immeubles pour en faire de nouveaux chantiers. Alors leur argument, c'est qu'ils voyaient des petites fumerolles de gaz s'échapper des étages quand ils s'écroulaient, et pour eux, ça correspondait à des explosions qu'on avait mis au niveau des pylônes, des piliers qui soutenaient la tour, et que ces explosions-là provoquaient l'écrasement des tours. Alors la réponse, elle est simple, comme on l'a dit tout à l'heure avec Opération Lune, c'est que justement la masse d'air qui est déplacée par les étages successifs s'écroulant les uns sur les autres provoque une pression, et cette pression doit bien partir quelque part, et donc elle explosait littéralement les fenêtres, et on ne pouvait pas imaginer l'inimaginable. C'est justement, on revient à la phrase de Daniel Bidalion, puis après évidemment je vous lance là-dessus parce que forcément faut qu'on décrive clairement ce qu'il en était avec ce documentaire-là. C'est vrai que le principal une source en tout cas du complot, malheureusement il y a des gens qui s'en servent idéologiquement, mais c'est vrai qu'on peut pas leur en vouloir malgré tout, même si on est absolument pas d'accord avec leur but à ces gens là de ne pas croire l'impensable.
Oui, c'est ça, mais comme ça a été fait, comme ça s'est passé, tu ne peux que l'imaginer. Maintenant, tu te dis, ben oui, forcément, à la limite, ce serait, je dis ça à dessein, dans une forme de cynisme, pourquoi on n'y a pas pensé avant, hein? Non, mais,
il y a eu des romans, voilà. Il y avait Michael Crichton.
Non, mais quelque part, pourquoi on n'y a pas pensé avant? On se dit, c'est tellement évident que si je veux faire effondrer un immeuble, à la limite, je prends un avion, je le tape dessus. Ok, mais c'est cette idée que maintenant ce soit. C'était tellement impensable qu'on puisse se dire, mais ça n'est pas vraiment arrivé, c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Et surtout, ce documentaire-là, il reprend toutes les théories anciennes des années 70 de la CIA qui masque des choses. On voit des documents masqués au crayon noir, au marqueur noir. Ce qui est devenu presque un espèce de cliché gimmick. Je veux dire, n'importe quel film le fait maintenant. N'importe quel jeu vidéo, n'importe quel Call of Duty le fait, par exemple, pour donner un exemple aux gens. Et on se dit, bah ouais, évidemment, on a masqué le nom, ça n'existe pas, on en est presque aux théories du LSD dans les années 50, que la CIA menait des expériences sur le LSD pour voir si ça pouvait amener les soldats à avoir de meilleures acuités ou être meilleurs sur le champ de bataille. Et voilà, on en vient à ce genre de truc. Ça reprend effectivement ce qu'il y avait dans X-Files, quelque part, ces petites pointes de théorie en disant, en Mulder dans son bureau disait, ah, rappelez-vous le programme machin chose, et puis tout le monde fait, oh, wow, le programme truc, ça existe, wow, incroyable. Et bien là, effectivement, on peut pas dire aux gens d'aller voir ce documentaire.
Non.
Dans le sens, clairement, il y a une visée. Il y a une visée de complot, il y a une visée antisémite, il y a ce genre de choses. Mais il faut, à la limite, se le voir avec le vrai recul et de se dire il existe. Et que quand on regarde et que ça existe, c'est le début de YouTube, c'est incroyable que ça arrive comme ça. Et quand on regarde ce documentaire et qu'on le met en parallèle avec celui qui est sorti
sur le COVID.
En 2021 oui, ouais. pour le Covid, ouais. c'est exactement le même principe. Voilà.
Et puis,
c'est ça, si tu as envie d'y croire, tu y crois.
Juliette.
Et puis il ne faut pas oublier que quand on regarde des vidéos sur YouTube notamment et tout ça, ça nous entraîne vers des vidéos similaires. Donc j'ai justement regardé un documentaire très intéressant là-dessus sur Netflix, par contre je ne me souviens plus du nom.
Super.
Ça a expliqué les dangers d'Internet. Je me dépêche juste, mais c'est quand vous regardez ça, vous allez vers quelque chose qui est similaire et du coup ça vous ancre ces idées profondément parce que plus vous en voyez, vous dites forcément c'est vrai. Et c'est ça aussi le danger.
Tout à fait. Alors c'est vrai que ça crée ce qu'on appelle un effet tunnel, hein, tout simplement, un biais de confirmation. Vous n'allez chercher que les informations qui vont vers ce que vous pensez, vous rejetez toutes les autres. C'est théorisé depuis très longtemps par les sociologues, les psychologues, et ça provoque justement cet effet-là. Donc là, après, c'est au site, je dirais, de vidéos et aux réseaux sociaux de réfléchir à ça, parce que c'est vrai que quand on a des vidéos et que vous avez un algorithme qui vous propose que ce que vous voulez, vous tombez dans un effet tunnel et vous ne vous ouvrez plus aux influences extérieures, ce qui est évidemment excessivement dangereux et toxique pour toute forme de pensée, quelle qu'elle soit. Alors, on a évidemment parlé de Loose Change parce qu'on parle de documentaire, de mockumentaire. Là, on est clairement dans un documentaire qui veut raconter la réalité, mais qu'il ment. Et je suis à peu près persuadé que beaucoup de ces personnes qui ont créé ces documentaires le savent qu'ils mentent, mais ils veulent récupérer énormément de clics, de tweets et d'attention. Notamment, le cas pour le Covid était ouvertement marqué. On savait que c'était des absurdités dingues d'imaginer que le vaccin était un virus, qu'il allait éradiquer les trois quarts de la population, que les élites étaient protégées contre ce vaccin. On est suffisamment de recul aujourd'hui, on est en 2023, on sait que c'est absolument dingue. Évidemment, ça n'empêchait pas de se poser des questions sur le vaccin et de sa viabilité, qui était tout à fait juste, mais de là, imaginer qu'il y avait un complot international pour éliminer le peuple dans le monde et que les élites soient préservées, évidemment, ce type de discours massin n'avait pas sa place. Et pour nous, en tout cas, évoquer ce traumatisme du 11 septembre, le sentiment de paranoïa et la volonté de raconter des histoires qui mentent, mais sans en rire, c'était important de le faire dans cette première émission sur les mockumentaires.
Ça va.
En effet, on commence à avoir faim parce qu'on enregistre à samedi matin cette émission que vous entendez sur toutes nos ondes et il est midi. On commence notre dernière partie. Donc, quand vous écoutez Graffiti Cinéma pour cette dernière partie sur les mockumentaires, on est en train de souffrir pour vous parce que le sujet est suffisamment important. Les amis, on est en tout cas très content d'en parler dans notre mois d'avril consacré aux documentaires et aux mockumentaires. Dans cette dernière partie, moi je vous propose directement un premier extrait d'un mockumentaire très très drôle qui est assez différent de ceux qu'on a évoqués dans la partie précédente. Forgotten Silver, d'un gars qui allait faire un petit film d'auteur juste après, Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson.
I'm in a small town called Pukerua Bay in New Zealand. Behind me, they call Hannah Mackenzie. About a year ago.
Alors cette bande annonce elle est en anglais, on entend la voix de Peter Jackson et Forgotten Silver, Juliette tu m'en avais parlé, vous l'avez vu tous les deux et bon, on le retrouve sur YouTube hein, d'ailleurs c'est un film de 50 minutes.
Oui, on va nous parler d'un cinéaste Lynn Mackenzie, voilà c'est ça, et qui serait susceptible d'avoir par ses recherches anticipé la création du cinéma sonore et du film en couleur. Et donc c'est Peter Jackson en plus qui lui-même se met en scène hein, puisque c'est lui qui va à la recherche de quelque chose. Il y a des témoignages, il y a des interviews de responsables d'archives, d'historiens aussi du cinéma, et du coup c'est vraiment très très bien fait. Si on ne sait pas que c'est un documentaire, on va se laisser emporter et puis à chaque fois on va trouver ça de plus en plus gros, c'est ça qui est génial. Si on est au courant que c'est un documentaire, on va rire dès le début de ce qu'on nous présente. Mais c'est vraiment très très bien fait, de façon très très intelligente. Et Peter Jackson, c'est pas son, enfin, c'est son premier coup de mockumentaire, mais il aime bien cet exercice parce que pour King Kong, son King Kong à lui, dans les bonus DVD, il avait fait aussi un petit mockumentaire sur la faune et la flore de Skull Island, voilà, pour dire que tout ça était vrai.
C'est vrai qu'on en avait un peu parlé quand on avait fait les groupes de rock fictifs, hein, notre émission vers laquelle on peut vous renvoyer, qu'on avait fait avec Nicolas, et ce film de Rob Reiner, Spinal Tap, qui raconte l'histoire documentaire, quasiment en film de fiction, d'un groupe de rock qui n'existe pas. Donc on voit à quel point ça peut être divertissant de le faire pour un cinéaste. Après, évidemment, c'est le public, hein, puisque le cinéaste est responsable de ce qu'il dit, mais il n'est pas responsable de ce que nous, on comprend.
Non, puis surtout, c'est qu'il ne dit jamais que le personnage n'existe pas. Il va jusqu'au bout, du bout du générique de fin, et il ne dit jamais, attendez, bon voilà, vous avez bien compris, on s'est bien amusé. Non. Et le truc, c'est que c'est un film qui est sorti en 1995, donc c'est très ancien pour le coup, enfin très ancien, interlatif, mais ancien dans l'idée que maintenant on se dit, ah ouais, tous ces mockumentaires, tous ce genre de trucs, ça vient d'Internet, ça vient des réseaux sociaux. Non.
Ouais, on a commencé en 38. Hein.
non, mais c'est ça. Il suffit qu'un je connais pas la genèse du film, mais j'ai envie de croire que cette idée que c'est Peter Jackson autour d'une table avec trois potes qui dit, oh, ouah, ce serait génial si on faisait un documentaire sur un gars qui a pas existé. L'histoire du cinéma, ça serait en Nouvelle-Zélande que ça aurait été inventé, quoi. On aurait été les pionniers, quoi.
Ouais, je pense que également,
on a le droit à ça, quoi.
De manière très, très juridique, je pense aussi que c'est un moyen, quand on veut raconter l'histoire de quelqu'un qui existe, de le faire de manière fictive pour éviter d'aller demander à des ayants droit de le faire, de demander à l'autorisation à une famille de le faire. Et c'est aussi un moyen, en tout cas détourné, de rendre hommage à des figures qu'on a rencontrées, de le faire dans un cadre tout à fait imaginaire et libre, de manière absolue, qui n'est juste contraint par ce qu'on a envie de raconter, quoi, directement. Et c'est vrai que c'est cette manière, en tout cas, de procéder correspond à quelque chose qui est tout à fait évidemment louable hein, au départ.
Et il se met en scène à la façon de Michael Moore quand il faisait dans Fahrenheit, dans ses films précédents.
Being for Columbine.
Ouais, même avant, quand qu'il était.
Ah bah, moi et Roger.
Roger et moi, voilà.
Roger
c'est
et
ça.
Moi, pardon, où il raconte son licenciement de General Motors, etc. Oui.
Et c'est très. Et pourtant, si on écoute bien et on lit bien ce qu'il dit, il y a quelques indices qui nous disent que c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est impossible. Il y a quelques. Il nous dit qu'il va au tribunal de Dunedin. Dunedin qui est un lieu du Seigneur des Anneaux, hein, donc bien avant qu'il commence à mettre en chantier le Seigneur des Anneaux, on sentait que ça le titillait, parce que le film il sort en 95, mais il est tourné en 93-94. Et il continue sur cette verve-là. On a envie de le suivre. On a tellement envie de croire que ce personnage ait existé.
Et puis les techniques de film, enfin c'est des idées folles. Mais en plus, quand il nous les raconte, ça paraît presque crédible. Mais avec des trucs vraiment hallucinants, comme les œufs, je crois, pour faire de la pellicule.
Ah, de la pellicule, ouais. Donc, du coup, il se retrouve à voler des œufs.
La caméra à l'épaule. Enfin, la couleur aussi. Si c'est dans une ville perdue, enfin un pays perdu avec des espèces de vaillinés, enfin c'est vraiment génial aussi sur l'aspect cinéma. Enfin, imaginez comment on aurait pu faire du film avant le film, quoi.
Et cette idée aussi que comme c'est pré-internet et pré-image numérique, il faut quand même une sérieuse dose de savoir-faire technique cinématographique pour le faire. Maintenant, il suffirait de dire je vais dans n'importe quel logiciel de retouche, je mets un filtre sépia. Là, quand il filme des scènes, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il trouve un moyen en 94-95, parce qu'il retrouve de vieilles pellicules et il nous diffuse 10 minutes de film total en nous disant regardez, j'ai retrouvé ces pellicules-là, elles existent. Donc il a fallu filmer un faux film qui n'a jamais existé pour le coup, lui donner un aspect d'époque 1925, un petit peu avant le parlant, avec des techniques numériques qui existaient maintenant mais qui n'existaient pas à l'époque. Donc ça prouve aussi que il y a une forme de vrai amour de Peter Jackson pour ça, quoi. Se dire moi j'ai vu ces films là, ces films muets, ces machins, j'adore ça. Et c'est de se dire l'idée de les reproduire et d'embarquer tellement de monde. Parce que là, on l'a pas dit, mais il y a Sam Neill dans le documentaire.
Alors Sam Neill, oui, le professeur Grant de Jurassic Park.
C'est ça. Sandy. Qui est un l'acteur néo-zélandais le plus connu du monde, hein, pour le coup.
Je sais pas qui est néo-zélandais, moi.
Et ben voilà. C'est pour... non, mais et alors petite anecdote, on voit aussi Harvey Weinstein.
Oh la vache.
Mais ce qui est cool, c'est qu'il est pas en train de violer des nanas. Donc on le voit de façon sobre. Hein, Harvey Weinstein sobre. Quoi.
C'est incroyable. Juste à maintenant, on était sur quelque chose de léger. Et là, boum, Harvey Weinstein.
Oui, mais il a produit quand même quelques films de Peter Jackson. Hein,
donc... Et évidemment, à l'époque de Miramax, notamment, avant évidemment d'être condamné pour cette abominable carrière qu'il a menée dans l'ombre.
Ce qu'on sait après, c'est que comme c'est diffusé à la télé ce film, la première diffusion s'est diffusée à la télévision, et Peter Jackson, il a laissé un peu de temps. Il a laissé 2 jours en ne disant rien. Il y a des sommités scientifiques qui ont commencé à dire « Oui, c'est vrai, moi je connais Colin McKenzie, effectivement j'ai vu ça, j'ai vu une archive dans je sais pas quoi. » Et donc évidemment, ça l'a fait marrer. Et après, évidemment, au bout de 2 jours, il a dit « Non, attendez, les gars, on s'est bien amusé, ça n'existe pas. » Et donc, gros tollé, les sommités qui commencent à se dédire « on nous a trompés, c'est inadmissible, vous vous rendez compte, on peut plus croire personne, et si on peut plus croire la télé, enfin bref, exactement la même chose que la radio en 1938, quoi.
Ouais, » exactement. Alors, on continue à finir léger, parce que c'est vrai qu'on avait d'autres thèmes à vous présenter cette semaine, mais on va les garder pour d'autres émissions, parce qu'à la fois dans les émissions qu'on prépare sur la parano et le cinéma, et sur le found footage, évidemment, qui est aussi une forme de mockumentaire, mais on traitera ce thème dans des émissions à part. Moi, je voulais finir aujourd'hui, c'est ce mois d'avril, hein, tout simplement, de documentaire en mockumentaire, avec une dernière référence qui est America de Vandal, que vous trouvez 2 saisons de mockumentaire totalement assumé. Voici la bande-annonce en VF, et vous le trouvez sur Netflix.
Le lundi 6 novembre, c'était un jour comme les autres. Je ne sais même pas quoi vous dire.
Le lundi, c'est Nuggets.
Ils sont trop bons.
J'ai très vite compris qu'il se passait quelque chose.
Ça n'a pas été immédiat.
Puis ça m'a pris d'un coup.
La limonade a été empoisonnée.
Les urgences, j'écoute.
Tous les élèves sont...
Alors, American Vandal, c'est absolument tordant, puisqu'il fait, c'est ce documentaire, quelque chose de génial en sous forme de série. Il se moque directement des grands documentaires qu'on connaît, criminels aux États-Unis, y compris en France, hein, qui ont tendance à ronronner, qui ont trouvé une forme. Hein, on peut citer en France l'académique et le culte fait d'entrer l'accusé, évidemment, qui a marqué des générations de téléspectateurs et qui est un vrai chef-d'œuvre. Hein, pour moi, très personnellement, fait d'entrer l'accusé, c'est le meilleur polar français des 20 dernières années. Mais il y a eu cette forme, cette narration documentaire, y compris dans les affaires criminelles, qui a eu tendance vraiment à se répéter et à devenir vraiment académique et pas forcément se réinventer. Le propre postulat d'America Vandal, c'est de prendre quelque chose de totalement dérisoire dans la vie de lycéen et de mettre en scène des apprentis cinéastes, des lycéens qui vont le mettre en forme directement de manière criminelle, qui vont prendre la forme du documentaire criminel, un peu à la Morgan Freeman, un peu à tous ceux que vous trouvez sur Netflix. Et ce qui est rigolo, c'est que Netflix l'a accueilli justement.
Netflix qui critique
lui-même la forme justement de ces documentaires qui a toujours tendance à être redondant. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme élément? On le fait rapidement, hein, ça va être une voix assez omniprésente qui va vraiment accentuer les effets, ça va être une bande-son, ça va être des témoignages qui vont installer le malaise, qui vont directement montrer des zones de gris, on va pas tout de suite répondre, on va avoir des cliffhangers dans des documentaires.
Le suspense à chaque fin d'épisode aussi.
Exactement. Donc on a cette façon de d'écrire le documentaire qui a été décrié des tonnes de fois hein, par des cinéastes et des historiens. On peut donner les exemples en France à chaque fois que sort un épisode d'Apocalypse, par exemple. Beaucoup d'historiens disent que c'est une mise en scène de l'histoire qui est exagérée, même si ça part d'un fond de vérité qu'on ne raconte pas d'ânerie. Il y a quand même une mise en scène qui parfois est agaçait certains historiens. Alors American Vandal prend ce parti, on en racontait des histoires dérisoires. Saison 1, Juliette, on peut le dire, le sujet de la saison 1, puisque là on entend la bande-annonce de la saison 2 où on met du laxatif dans les nuggets au lycée et tout le monde, je vous passe les détails de ce qui va suivre.
On voit
grosso modo ce qui va se passer. Mais dans la saison 1, on est sur quelque chose de dingue, c'est que un élève a fait quelque chose de grave sur la voiture.
Oui, on peut faire le pitch parce que je trouve qu'il est super intéressant quand même. Le lycée de Hanover est en émoi. Un vandale a tagué 27 pénis sur les voitures des profs. L'identité du coupable ne fait aucun doute aux yeux des élèves, des enseignants et du conseil de discipline. C'est Dylan, graine de délinquant adepte des blagues stupides et dessinateur de pénis chevronnés. À moins que... Et donc c'est un élève du journal du lycée qui décide de mener l'enquête dans ce documentaire consacré à l'enquête. En étudiant les éléments et en interrogeant les acteurs du drame, Peter met en doute la version officielle. Et si Dylan était innocent et si quelqu'un d'autre avait commis le délit?
Alors c'est absolument important parce que le cinéma va interroger tout le monde, il va récolter des témoignages, on va regarder comment il décide des pénis, est-ce que ça correspond?
Voilà, c'est ça, c'est super, on va regarder les preuves sur un sujet complètement fou, qui prête tellement à rire. Et en fait c'est ça qui est génial, c'est que sur ce sujet d'une trivialité intense, et ben on finit par se poser des questions. Mais c'est super parce que le documentariste, l'élève, lui aussi va se poser des questions sur son rôle aussi au fur et à mesure. Au début, ça paraît tellement bête que... Mais en fait, on est attiré dans le truc et ça devient vraiment génial. Et ça se moque... Alors moi, je trouve que ça se moque beaucoup de Making a Murderer, donc un documentaire Netflix qui met quelqu'un qui, selon le documentaire, n'est pas coupable d'un crime dont on l'accuse, qui a été emprisonné, hein, jugé et emprisonné. Et voilà. Et là, ça prend exactement les mêmes mécanismes, le même nombre d'épisodes, les mêmes petits suspens à chaque fin d'épisode, les mêmes les petits arguments qui font que les éléments de preuve. Mais, et je ne spoilerai pas, il y a quelque chose qui se passe à la fin. Et voilà. Et là, c'est là où on se dit... il faut que je réfléchisse, il faut que je regarde les sources, il faut réfléchir. C'est ce qu'on a dit plus tôt, c'est faut toujours vérifier ses sources et à plusieurs endroits différents.
Complètement, et c'est ça qui est absolument passionnant dans le documentaire, c'est qu'on sent qu'on est embarqué dans une forme en fait narrative, et à l'image en gros de la musique où sur une bonne ligne de basse vous pouvez raconter votre liste de course, ça fonctionnera. Là on a la sensation qu'avec cette forme du documentaire criminel on peut raconter n'importe quelle connerie d'un trognon de pomme retrouvé dans un casier au lycée, eh bien, si vous le racontez avec cette forme-là, vous allez être embarqué. Et c'est vrai qu'American Vandal questionne un peu ça. Cette mise en scène du récit sur des choses totalement dérisoires parfois, où on vient empouler directement et on vient accentuer la dramaturgie dans des affaires qui parfois n'en ont pas besoin. Ça pose la question vraiment du point de vue, en tout cas, et de l'écriture d'un documentaire. Et c'est pour ça qu'American Vandal, en plus d'être excessivement tordant, va questionner aussi votre propre rapport et vos propres goûts, en fait, directement sur les documentaires. Alors Thomas, je sais pas si tu les as vus.
Non, mais ça me fait penser, est-ce qu'on peut voir une sorte de critique des chaînes en continu ? Où effectivement, moi j'ai pas vu, hein, mais j'imagine qu'il y a un expert scientifique type Dominique Rizet qui vient nous expliquer face caméra en disant regardez, vous voyez cette morsure sur ce trognon de pomme correspond pas aux dents de Dylan, mais correspond aux dents d'un autre. Mais on sait que Dylan n'aimait pas les Golden, il préférait les Pink Lady.
Alors il y a un peu de ça, parce que c'est vrai que le cinéaste joue ce rôle-là. Il leur dit à un moment donné, bon, il y a une scène tordante, tu lui dis comment tu dessines des pénis. Il lui dit ah non mais moi j'ai
le dessin des pénis.
Voilà, moi je mets des poils sur les voitures, il n'y avait pas de poils. En plus je dessine de la main droite, là on voit clairement que c'est de la main gauche, c'est pas fait. Donc il y a cette scène qui est absolument tordante, qui évoque un peu ça. C'est spécial.
Les études aussi sur il a passé un coup de fil à telle heure et tout ça, mais ça reste quand même dans le cadre lycéen. Donc il n'y a pas les moyens que pourraient avoir des chaînes d'infos, mais effectivement il y a quand même cet aspect là aussi.
Tout à fait, en tout cas c'est vrai que pour cette émission sur les mockumentaires, on voulait vraiment vous transmettre cette référence là. Alors évidemment c'est très connu, vous connaissez peut-être déjà, mais si vous ne l'avez pas vu, vous avez entendu la bande-annonce tout à l'heure et que ça, ce qu'on évoque là vous donne envie, n'hésitez pas, courez-y, parce que c'est vraiment absolument tordant, hein. Franchement on parlait
de... Est-ce que c'est Dylan qui a fait le coup ou pas?
Ah bah on ne peut pas le dire ça,
on ne va pas le dire, on ça, va pas le dire.
Ah bah non, ça, c'est
toi t'es pro Dylan ou pas?
Moi je suis je peux pas le dire.
voilà, tu regardes le documentaire, c'est comme Making a Murderer, tu vas te dire ah là 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 là, il est innocent. Là tu auras la conclusion, parce que Making a Murderer, bah t'as un jugement et tout, mais le documentaire te laisse dire qu'il est innocent et il est en suspens. Maintenant voilà, Making a Murderer, tu vas lire un petit peu plus, tu vois bien que les petits documentaristes, ils t'ont pas tout dit. Ils ont caché pas mal de trucs. Donc voilà.
Exactement. Et alors du coup, on peut le dire aussi, hein, donc quand je parlais de Planning Coin tout à l'heure, c'est 6 épisodes de 30 minutes à peu près. Pour American Vandal, c'est vous avez 8 épisodes de 50 à peu près. Voilà.
En Planning Coin, il y a aussi une version sur l'Angleterre. Et Kunk on Britain.
Oui.
Elle a déjà fait avant ça. Non,
je pense que plus le succès de Kunk on Earth qui a bien marché sur Netflix, peut-être que Netflix rachètera les droits de celui-ci pour le découvrir. En tout cas, c'est avec Diane Morgan. C'est absolument génial. Voici des références qu'on voulait vous citer. Évidemment, le sujet est très très vaste. Il y a des tonnes de références. C'est une première émission sur les mockumentaires. On y reviendra avec des thèmes approchants. En tout cas, un grand merci Juliette d'avoir été avec nous pour nous parler.
Merci, beaucoup.
Et merci Thomas d'avoir été avec nous également. Cette émission a été en partie filmée. Je ne sais pas si elle était bien filmée. Alors on verra si vous avez ces vidéos.
Mais nous, on ne savait pas.
Donc, ils m'ont refusé les droits. Et on va en profiter pour dire un coucou à tout le monde. Au revoir, en tout cas. Merci de nous suivre. Et le mois prochain, au mois de mai, on se retrouve, en tout cas, avec un angle totalement différent. On parlera de cinéma social et de cinéma de société. Donc, on vous retrouve au mois de mai. Vous avez toutes les infos sur ce nouveau cycle d'émission. Sur nos pages évidemment Facebook, Instagram et sur TikTok maintenant également. Salut, à bientôt, à la semaine prochaine. Bisous les amis.
Bisous.
Bisous, à bientôt.
Yes.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Non, pourquoi vous faites ça? Hein?